Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque vendredi, l'écrivain Régis Debray interroge les rapports de force internationaux.
J'ai invité ce soir Amandine Nguyen-Guenon, docteur de l'Université d'Auvergne et directrice du projet Guerre et politique dont nous allons parler. Amandine Nguyen-Guenon, bonsoir.
Bonsoir Régis Debray.
Pouvez-vous nous dire un peu qu'est-ce que c'est que ce projet Guerre et politique ?
Alors le projet Guerre et politique, en fait, c'est un projet qui a commencé en 2012, qui a été financé par la mairie de Paris dans le cadre d'un financement qui s'appelle Émergence et qui vise en fait à aider au développement de sujets de recherche d'équipes de jeunes chercheurs. Donc nous avons commencé avec une équipe d'une vingtaine, on a terminé à peu près à 15, voilà, c'est un peu toujours les aléas de l'avancée des projets.
Mais alors, les guerres, où ?
Mais justement, l'idée c'est que, alors, d'essayer d'avoir une approche comparative entre des guerres de différentes zones géographiques. Mmh. Donc dans ce cadre-là, alors bien sûr, on avait une composante essentiellement africaine, j'ai envie de dire, mais on avait aussi des chercheurs sur l'Afghanistan, sur le Pakistan, sur la Syrie, sur l'Irak. Donc on avait même un chercheur sur Haïti, donc pour montrer à quel point on a essayé de s'élargir au maximum. Et l'idée de ce projet, c'était vraiment d'essayer de décloisonner toute la réflexion qu'on peut avoir en général dans le monde académique pour essayer de le porter un peu plus vers le grand public.
C'était pour le ministère de la Défense ?
Pas du tout. Vraiment pour un projet qui était financé par la mairie de Paris, donc pour lequel on avait en fait une totale liberté sur le choix des outils, des choses qu'on voulait présenter, et avec toute cette interrogation en filigrane de savoir finalement comment les guerres qui durent, les guerres au sens premier, on les entend aujourd'hui, les rapports de force violents en Afrique, en Afghanistan, en Pakistan, contribuent en fait à la recomposition du politique. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique où le politique égale l'État weberien que nous connaissons, mais plutôt dans d'autres formes plus localisées de politique, dans le sens de vivre ensemble, qui fait que progressivement, dans les zones où les guerres durent, progressivement le politique se recrée au niveau des communautés, au niveau des tribus, au niveau des familles, et tout ça finalement contribue à concurrencer l'État, qui est un État dans ces zones-là essentiellement importé, et qui vient en fait évoluer progressivement au fur et à mesure de la guerre.
Bon, alors nous viendrons finalement à cette question essentielle du rapport entre le militaire et le politique, mais nous allons nous concentrer ce soir, Amandine, sur l'Afrique noire, qui est, je crois, votre spécialité, sans nier vos compétences par ailleurs. Et alors, déjà, dans l'hémisphère nord, les guerres entre États deviennent rares, mais alors encore plus en Afrique, semble-t-il, puisque qui dit État dit tout de même institution. Là où les États sont peu institutionnalisés, cela pose problème, et on assiste plutôt, me semble-t-il, à des guerres civiles, irrégulières, à une sorte d'état de violence permanente. Donc, qu'est-ce qu'on peut définir comme guerre autre chose que l'état de violence endémique qui semble régner un peu partout? À partir de quand, dites-vous, il y a guerre? Et entre qui et qui?
Alors, la définition que je retiens en général de la guerre, c'est une lutte armée entre unités politiques organisées. Donc ça sous-entend à chaque fois qu'il y a un rapport de force, de violence, où il y a finalement des armes qui s'expriment. Et ça sous-entend aussi qu'on arrive à identifier quels sont les acteurs politiques qui, à un moment donné, sont dans ce rapport de violence et s'affronte. Donc ça laisse finalement une perspective très large. Donc sans tomber dans le tout-guerre, ce qui est intéressant et tout le travail de réflexion auquel j'ai abouti, c'est que finalement, on est insatisfait aujourd'hui du modèle qui nous permet de penser la guerre.
Est-ce que Boko Haram, par exemple, ou Al-Qaïda sont des unités politiques organisées dans votre schéma?
Aujourd'hui, c'est toute la difficulté. Dans mon schéma, non. Parce qu'il n'y a pas de projet politique. Quand j'entends unité politique organisée, c'est que derrière, il y a un projet social, un projet de cohésion, un projet d'unir. Or, dans la plupart des cas, ces groupes-là sont plutôt là pour finalement détisser le lien social, jouer sur les divisions, jouer sur la fragmentation. Le problème, c'est qu'ils le font. Le problème, c'est que l'État lui-même le fait aussi. Finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un peu une sorte de fil rouge en Afrique qui est depuis la décolonisation, on a une politique du diviser pour mieux régner. Alors c'est pour ça d'ailleurs que souvent, quand on parle de l'Afrique, on parle de guerre ethnique. Parce que ce qu'on retient, c'est que ça, c'est de dire, voilà, ce qui nous ressort avant tout, ce sont des guerres ethniques.
Et alors, pour distinguer une armée d'une milice, une milice d'une bande, tout ça est assez flou, j'imagine. Je ne vois pas ce que la science politique peut là-dessus apporter, sinon la connaissance du terrain, l'intuition. Donc Boko Haram, c'est une bande ou pas? Ou c'est une milice? Peut-être pas, parce qu'une milice correspond à une ethnie, généralement, non?
Pas forcément, forcément. Non, c'est justement, c'est là où on touche aux limites, en fait, de toutes les classifications qu'on a essayé d'établir en sciences politiques ou même en sociologie. Et comme vous le dites, la seule manière, finalement, de répondre à cette question, c'est d'aller sur le terrain, d'observer et de voir que, finalement, on est dans une logique de fluidité constante. Et même la distinction entre civils et combattants, qui est là depuis, même en dehors de l'Afrique, qui est là depuis très longtemps, qu'on critique, tout ça est très, comme je vous dis, très fluide, très mobile. L'exemple, par exemple, des combattants au Tchad, où on voit qu'aujourd'hui, la sociologie, la trajectoire des combattants au Tchad, c'est qu'à un moment donné, pour avoir une position sociale dans la société, il faut passer par le métier des armes. Donc c'est en fait, finalement, la question, c'est pas de dire la guerre, c'est bien, c'est mal. C'est que la guerre, elle a des conséquences sur le lien entre les individus, le lien
évident
entre les communautés.
Et alors, ces guerres hybrides, donc, qui sont à la fois à l'intérieur des États, guerre civile, et entre les États, ou en tout cas avec des bases arrières dans l'État voisin, ça pose tout de même la question étrange, quid des frontières? Parce que, je dis pas ça parce que je suis maniaque de la frontière, mais parce que l'Afrique, enfin l'OUA, a pour dogme l'intangibilité des frontières. Mais quid de l'intangibilité des frontières quand on ne sait plus bien faire la différence entre l'interne et l'externe? L'intangibilité des frontières, elle est violée quotidiennement. Mais d'ailleurs, il faut peut-être distinguer intangibilité et inviolabilité. Pouvez-vous préciser ce point?
L'idée, en fait, c'est que l'inviolabilité fait référence à la notion d'ingérence, en fait. L'intangibilité, c'est de dire que les frontières sont et qu'elles elles ne bougent pas, de toute façon. Donc c'est la frontière ligne, en fait, c'est la limesse, en fait. C'est l'héritage vraiment occidental, au sens premier du terme. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce qui est au cœur de tout ça, une fois de plus, c'est l'État. C'est-à-dire que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'au moment des indépendances, au moment de la souveraineté, ce qui était en jeu, justement, c'était la notion de frontière. Parce que pour que les États africains soient souverains, il fallait qu'ils aient une frontière. On connaît les trois composantes de l'État, la frontière, l'autorité et la population sur lesquelles s'exerce cette autorité. Donc renoncer à la frontière, renoncer à cette intangibilité des frontières, voulait dire finalement, quelque part, ne pas avoir d'État. Donc finalement, tous les États africains se sont mis d'accord sur garder les frontières, on n'y touche pas, pour être des États avant tout souverains. Mais aujourd'hui, la notion de guerre vient remettre en question cette notion-là, tout simplement parce que les États eux-mêmes se jouent des frontières. La frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo est constamment violée par des ingérences du Rwanda, qui justifient en fait le droit de poursuite des ex-génocidaires encore aujourd'hui, du génocide de 94. Et donc finalement, comment est-ce qu'un État peut à la fois revendiquer une intangibilité de la frontière, sachant qu'il la viole en fait constamment par des ingérences régulières pour politiquement et économiquement assurer sa survie face à un géant, mais qui en fait est un colosse au pied d'argile? Donc on voit aujourd'hui les limites.
Le colosse au pied d'argile
étant la RDC, la République démocratique du Congo. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement, la frontière, c'est aussi la manière dont les populations la vivent au quotidien. Cette idée de frontière qui est finalement une sorte de barrière infranchissable, au quotidien, ça n'a absolument aucun sens.
Et puis, il y a tout de même le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, à partir de quand une population devient un peuple? C'est l'éternel problème, n'est-ce pas?
C'est l'éternel
Toutes
problème.
Toutes les séparatismes, les sécessions. Il y a eu tout de même le cas de l'Érythrée, qui s'est... s'est séparé de l'Éthiopie.
Oui.
Et ça a été admis et reconnu internationalement.
Oui, oui, complètement. Et plus récemment, la question du Soudan du Sud, en 2011, qui est devenu indépendant.
Qui est également reconnu.
Qui est reconnu, mais rapidement, dès le moment où le Soudan du Sud est devenu un pays à part entière, on a vu et on voyait déjà émerger tout un ensemble de problématiques qui étaient que ce pays, politiquement, n'était pas viable, en fait. Et aujourd'hui, la guerre qui perdure entre les deux Soudans est, en fait, finalement, le prolongement de ça. C'est qu'on voit que derrière tout ça, il y avait un enjeu économique très fort, et là, les ingérences extérieures ont beaucoup joué là-dessus, pour cette idée de mettre en avant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais est-ce que finalement, ça correspond vraiment aux attentes et est-ce que c'est un facteur de stabilité? Ça, j'en doute.
Alors, il y a une question qui va vous apparaître un peu colonialiste, mais est-ce que le tribal ou l'ethnie permet la constitution d'État-nation? Ou autrement dit, comment l'État-nation, avec le formalisme juridique que les conventions internationales supposent, comment l'État-nation peut-il subordonner ou neutraliser les divisions tribales, ethniques? Tout de même un problème qui se pose, non? Je veux pas faire l'ethnographe au rabais, et j'ai quitté mon casque colonial, mais tout de même, c'est le sentiment que donnent beaucoup de conflits. On y reviendra précisément ensuite pour le Darfour ou le Mali. Mais évidemment, cette notion n'est pas cette notion de tribu, qui je crois est une notion d'avenir, pour tout vous dire, y compris en Europe, n'est-ce pas? Les Wallons et les Flamands, excusez-moi. Bon, mais je veux dire, est-ce que l'Union africaine est armée intellectuellement pour affronter ça?
Pas du tout. Et pour revenir sur le premier aspect de votre question, je pense que l'État devrait justement être cette entité qui rassemble, qui est au-dessus. Oui. Le problème qui se pose depuis les indépendances, c'est que l'État est aussi une partie du jeu politique. Donc il ne peut pas rassembler. Il est perçu parce que justement, l'appareil d'État, c'est l'appareil où se concentrent les ressources politiques, économiques, les privilèges. On crée un réseau de clientèle qui fait que, de fait, le jeu, c'est qu'il y a ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Et ceux qui sont dehors, la seule chose qui les intéresse, c'est d'y rentrer. Et on l'a vu dans le cas du Kenya, pendant les élections de 2007, c'était particulièrement révélateur. Et aujourd'hui, la plupart des crises, elles tournent autour de ce jeu-là. C'est-à-dire que finalement, l'élection qui est souvent portée comme une finalité par les Nations Unies en organisant une élection, on résout le problème, en fait, c'est le début du problème. Parce qu'on gèle un rapport de force qui se cristallise pendant toute la durée d'un mandat. Et finalement, la seule chose qu'attendent ceux qui ont été mis à l'écart, c'est le prochain tour pour pouvoir s'emparer du pouvoir et quitte à le faire par la violence. Parce qu'ils n'ont rien à perdre. C'est la loi du tout ou rien. Vous gagnez, vous perdez tout.
Oui. Et donc, il n'y a pas de statut d'opposition, de l'opposition.
Non, parce qu'en fait, rapidement, ceux qui ont la main sur l'État s'arrangent pour pouvoir neutraliser l'opposition. Et on n'est pas du tout, et là, on touche aux limites du jeu démocratique. Ouais. Et le Mali était un très bon exemple de ça, où on a une démocratie qui a été une démocratie de façade pendant longtemps. Et quand vraiment tout ça a explosé, on s'est rendu compte que, tout ça n'existait pas, en fait.
Je vais vous demander de revenir sur le Mali, mais dans l'immédiat, j'aimerais, Amandine, j'aimerais vous interroger sur le facteur religieux, qui est si important par ailleurs, mais qui ne semble pas, à part l'opposition classique entre, je dirais, le monde du nomade islamique et le monde du sédentaire ou des forêts, etc. Est-ce qu'il y a un rôle important du facteur religieux dans les conflits africains?
Alors, je connecte vraiment le facteur religieux au facteur politique. Oui. C'est-à-dire que le facteur religieux a toujours été là. Le facteur, j'ai même envie de dire, aller plus loin que le religieux, le facteur sacré, qui a toujours été très présent. C'est vraiment une constante des sociétés africaines. Le problème aujourd'hui, c'est que le vide que laisse le politique, c'est-à-dire l'absence de sens, qui est pas propre à l'Afrique d'ailleurs.
Non.
L'absence de sens, l'absence...
Qui est propre au monde entier, Europe inclus.
Exactement. Et donc cette absence de sens fait que le sens, les populations, elles vont le chercher ailleurs. Et elles le retrouvent dans le religieux, qui lui est en train, par des acteurs radicaux, est en train de mener une offensive immense. Et on voit en effet pousser des écoles coraniques, par exemple, qui sont un très bon exemple d'une éducation à deux vitesses dans beaucoup de zones. C'est-à-dire que finalement, vous avez l'éducation à l'occidentale dont beaucoup de jeunes sont exclus, et par opposition, une éducation de masse qui, elle, s'ouvre à tout le monde, mais qui est une éducation qui est basée sur la religion. Et ça, c'est tout simplement le fait d'une absence du politique, d'une absence de politique publique qui est là pour former une jeunesse, pour essayer de se projeter dans l'avenir. Et en fait, le religieux vient combler cela. Et alors, bien sûr, c'est comme la question de l'ethnie, c'est-à-dire que finalement, c'est ce qui nous éclate à la figure, c'est ce qu'on voit en gros. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est que le religieux en lui-même n'est pas plus important ou moins important qu'avant. C'est le politique qui lui-même, par son incapacité à résoudre un certain nombre de conflits, un certain nombre de situations, de répondre aux besoins et aux revendications des jeunes et des populations plus largement, ben finalement ouvre la porte au religieux qui, lui, s'immisce dans la brèche et prend sa place à ce niveau-là.
Le religieux serait ainsi la politique de ceux qui n'ont pas de politique.
Exactement.
J'ai envie de vous poser une question, alors là, peut-être plus polémique, en tout cas pour moi, c'est le rôle des ingérences étrangères, disons des interventions, pour employer une langue neutre. Est-ce que ces interventions, on va reparler du Mali ensuite, mais est-ce que ces interventions ont pour vous un rôle stabilisateur ou déstabilisant? Est-ce qu'elles aident au maintien de structures étatiques, d'une cohérence administrative générale, ou est-ce qu'elle précipite la dissolution du politique et donc un redoublement de violences anomiques, de violences éparses, non contrôlées, de voilà. Autrement dit, est-ce qu'on aide au monopole étatique de la violence quand un pays occidental débarque avec ses troupes et peut donner l'impression aux populations, comme on dit chez les préfets, je préfère dire à un peuple, que un étranger vient se mêler de nos affaires. Et donc discrédite peut-être le gouvernement qui a appelé ces étrangers. Enfin, je ne veux pas doubler ma question d'une réponse implicite, Amandine Yanguénon, mais j'aimerais tout de même vous entendre là-dessus.
Oui. Alors, Régis Debray, en fait, sur cette question-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont les deux. Elles stabilisent et en stabilisant, elles déstabilisent. Elles stabilisent, si on prend par exemple le cas de l'intervention française en Côte d'Ivoire en 2002, elle a plus que stabilisé, elle a même gelé un rapport de force. Elle a coupé quasiment un pays en deux. Donc de ce point de vue-là, ce que vous diront les militaires français, c'est qu'on a évité en fait finalement un déchaînement de violence. Donc là, elles ont stabilisé. Pour le Mali également, on va vous dire qu'elles ont stabilisé, elles ont empêché finalement que la crise libyenne, la crise malienne ne dégénère finalement à l'échelle encore plus large de la région. Mmh. Mais elles déstabilisent finalement toujours dans ce contexte où le politique lui-même est fragile, où l'appareil d'État est fragile. Donc elles déstabilisent dans le sens où elles changent le rapport de force. C'est-à-dire que vous vouliez être neutre, vous le voulez, mais vous ne pouvez. Enfin, vous essayez, mais en tout cas, vous êtes forcément partial dans votre prise de position.
En République centrafricaine, est-ce que l'intervention française peut être considérée comme neutre?
C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'en fait, le problème, c'est que chacun des acteurs joue sa survie au quotidien. Les groupes religieux, les populations, les groupes rebelles, les opposants politiques, eux, ils ont une vision très court-termiste de quels sont les profits qu'on peut tirer de cette intervention. Et partant de ce principe-là, que vous souhaitiez ne pas prendre parti, vous le prenez forcément. Quand vous décidez de protéger les offensés, les populations qui sont finalement au départ les plus démunis, qui sont les plus victimes, vous prenez parti à ce moment-là. Et surtout en Centrafrique, où il y avait justement cette opposition entre, je caricature, mais entre chrétiens et musulmans. Mmh, donc voilà, quand vous décidez de prendre position, vous êtes perçu comme la partie qui n'est pas aidée, comme un ennemi.
Perçu comme chrétien par les musulmans, par exemple?
Ben dans certains cas, oui. Oui, c'est vrai qu'il y a cette... rapidement, mais il y a cette idée de dire, en fait, ils prennent parti parce que ce sont des Blancs, parce que ce sont des Français, parce que ce sont des chrétiens. Et donc, ils se positionnent. Il y a aussi, ce qui est important, il y a toute la question de la perception. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est quand on intervient, on ne prend pas suffisamment en compte les effets sur les perceptions locales. Et en cela, typiquement, l'intervention des Nations Unies en République démocratique du Congo, l'opération dure maintenant depuis plus de 10 ans, est un échec total. C'est-à-dire que le premier réflexe au Mali, ça a été de dire « nous ne voulons pas d'opération de maintien de la paix des Nations Unies ». Parce qu'on a vu ce que ça a donné en République démocratique du Congo et ça ne nous intéresse pas. Et ça, c'est tout simplement ce qu'on n'a pas pris en compte les perceptions locales, l'effet d'une intervention extérieure sur l'évolution des rapports de force et la manière dont les populations la perçoivent dans finalement quelque chose d'assez limité. Le fait d'avoir des casques bleus qui, de toute façon, ne peuvent pas ouvrir le feu sauf en cas de légitime défense, qui se retrouvent dans des positions où on a des agressions, ils ont des agressions devant eux et ils ne peuvent pas réagir parce qu'il faut d'abord appeler la capitale pour s'assurer qu'ils ont bien le droit de faire quelque chose. Tout ça, ça a des effets dévastateurs.
Les casques bleus sont plus mal perçus que les Français ?
Sur le long terme, je pense, oui.
Parce que moins discipliné, peut-être.
Moins discipliné. Et puis, avec cette idée que les Nations Unies viennent avec toute une idée, une vision, des principes qui, en fait, les desservent sur le long terme. L'idée de démocratie, l'idée d'égalité, l'idée d'impartialité, tout ça les dessert au quotidien. La France vient vraiment, en général, avec une approche très militaire, c'est-à-dire on vient pour résoudre un problème. Voilà, ce problème, tant qu'il n'est pas résolu, on s'en va pas. Ou pour des questions budgétaires, on est obligé de partir avant, ce qui est le cas de la Centrafrique. C'est-à-dire que, de toute façon, l'intervention française n'avait pas vocation à rester indéfiniment en Centrafrique. Il faut d'abord que l'État se reconstitue. Sinon, en effet, la France devient justement partie prenante du jeu et elle ne s'en sort plus.
Devient force occupante.
Oui.
Ce qui est évidemment désastreux.
Take me.
Continuer cette conversation, Amandine Nyangénon, j'ai envie de vous demander d'où vient ce chant et pourquoi l'avez-vous choisi ? Est-ce un chant de guerre ?
Alors, Régis Debray, le groupe qui chante cette chanson, qui s'appelle Oya, O-Y-A, s'appelle IBI, qui est en fait deux sœurs jumelles, qui sont franco-cubaines et qui sont en fait, qui chantent en langue anglaise, française et yoruba, qui est une langue qui est particulièrement parlée, une culture particulièrement présente en Afrique de l'Ouest, au Nigeria et au Bénin. Et en fait, le choix de cette chanson, bon déjà les voix sont, moi je les trouve magnifiques, je trouve que voilà, tout est très limpide, très pur et très épuré, et j'aime beaucoup cette chanson. Et au-delà de ça, le titre, en fait, c'est le nom d'une déesse africaine, l'une des plus puissantes en Afrique, et qui a pour mari Shango, qui serait l'équivalent de notre Poséidon, en fait. Donc c'est la déesse des éléments. Voilà. Et j'aime beaucoup la référence à cette chanson parce que finalement, cette déesse, elle exprime justement la force. Voilà, elle exprime la force des éléments qui se déchaînent. Également, la force de la métamorphose, c'est-à-dire la question de l'intérieur et de l'extérieur. Comment est-ce qu'on essaye progressivement, on est chacun dans un exercice au quotidien, d'essayer de travailler sur la relation qu'on a avec notre environnement extérieur et comment cet environnement nous influence.
Vous avez évoqué une chanson franco-cubaine et le mot cubain me fait souvenir que dans la période de guerre froide, il y a eu de vraies guerres en Afrique. Il y a eu des guerres de libération en Guinée-Bissau avec Amilcar Cabral, que j'ai connu, assez bien connu, j'avais beaucoup d'estime pour lui. Et puis il y a eu aussi des affrontements entre armées quasi régulières, entre l'armée sud-africaine et l'armée cubaine. Quel souvenir ça a laissé? Est-ce qu'on en parle un peu de cette présence vraiment, alors, d'armées constituées avec des chars et des avions? Ça, c'était pas le modèle africain, hein, je crois. C'était vraiment peut-être un débordement de la guerre froide. Encore que l'intervention cubaine a été décidée par les Cubains eux-mêmes qui ont mis les Soviétiques devant le fait accompli. Enfin, les Soviétiques sont tout de même intervenus, ont donné la logistique, etc. On en parle encore un peu?
Pas tellement. En fait, aujourd'hui, ce qu'on retient beaucoup, alors on en a beaucoup parlé avec le décès récent de Fidel Castro, oui. Justement, sur un peu un bilan de qui avait été les effets de la présence cubaine en Afrique. Oui. Ce qui ressort aujourd'hui particulièrement, c'est le rôle des médecins cubains. Par exemple, pendant la crise Ebola, c'est vrai que ça a été un des pays qui a rapidement envoyé des médecins. Le rôle aussi en termes de formation des élites, ça c'est très important, surtout dans cette logique où aujourd'hui de plus en plus ce qu'on appelle les émergents, alors tous les guillemets qu'on peut mettre, mais leur présence particulièrement forte pour essayer de se positionner vis-à-vis justement de ce qu'on appelle le renforcement des capacités des États. Et en ça on voit défiler beaucoup à Cuba en fait de présidents qui sont et de ministres qui viennent pour se former et pour justement prendre un peu de recul par rapport aux anciennes colonies.
Oui, ça c'est une intervention réellement humanitaire et solidaire. Mais puisqu'on est en si bon chemin, le Che Guevara n'avait pas gardé un bon souvenir de son ingérence à lui. Ou plutôt, c'était chez lui un engagement internationaliste et c'est devenu une ingérence, ou ça a été vécu peu à peu comme tel. Et il était, je dirais... il était très désappointé ou très décontenancé par l'attitude autour du Grand Lac de ses compagnons africains qui ne lui semblaient pas du tout prêts pour la guerre. Voilà. Mais alors revenons à nos moutons, si j'ose dire, c'est-à-dire à ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez fait une note très intéressante sur l'opération Serval, puis l'opération Barkhane, c'est-à-dire quelque chose qui s'est déclenché, je crois, vers 2013. Mais d'abord, une petite question. Est-ce que ce n'est pas l'intervention en Libye qui a déclenché ou qui s'est répercutée, l'intervention française et anglaise en Libye, qui a en quelque sorte débordé sur le Mali, Amandine Yanguenon?
En fait, Régis Debray, tous les ingrédients de la crise étaient déjà là.
D'accord.
La crise libyenne a eu un effet catalyseur là-dessus. C'est-à-dire que finalement, quand je dis les ingrédients, c'est finalement le fait que le Nord Mali est depuis très longtemps une zone périphérique qui est complètement à l'abandon, où il n'y a aucun service d'État. Où ce sont finalement des groupes qui se sont constitués, qui se sont organisés pour essayer de vivre au quotidien, d'organiser des richesses, qui vivent des trafics. Et ça, le trafic dans le Sahara, Sahel, c'est absolument pas quelque chose de nouveau. Donc, il y avait tous les ingrédients étaient là.
Manquait l'effet catalysateur.
L'effet, ça a été déjà la première, c'est qu'avec l'explosion de la Libye, les populations maliennes ont été renvoyées chez elles. Donc, elles sont revenues pour la plupart avec des armes qui ont eu pour effet, justement, de mettre le feu aux poudres. Et donc, tous les groupes qui attendaient justement aussi pour s'affirmer, revendiquer finalement une autonomie, parce que c'est ce qui s'est passé. Le mouvement de l'Azawad a demandé finalement l'autonomie de l'Azawad, l'indépendance de l'Azawad. Mais ce qui était en jeu à ce moment-là, c'est vrai
l'Azawad que... étant les Touaregs.
Oui, la région, voilà.
La région Touareg. Voilà.
Et ce qu'il y a, une fois de plus, qui est important, c'est que dans l'esprit de beaucoup de personnes, on a fait le lien avec le Soudan du Sud, en disant ils veulent un pays indépendant comme le Soudan du Sud, ce qui n'était pas du tout le cas. En fait, ce qui était en jeu, c'est dire nous voulons une zone que nous allons contrôler officiellement, reconnue officiellement, pour pouvoir tout simplement exercer un contrôle sur les trafics. Ce qui est en jeu, en fait, dans cette région, c'est pas tellement la question de on veut un pays qui soit reconnu par les Nations Unies. Ce qui est en jeu, c'est qu'on veut, en fait, faire notre business dans notre coin sans que personne n'ait de droit de regard sur ce que nous sommes en train de faire. Et donc, la crise libyenne est venue catalyser, en fait, tout ça. Et puis, progressivement, on a vu apparaître, comme je vous le disais tout à l'heure, le semblant de démocratie, où on mettait toujours en avant, depuis les années 90, le Mali comme un modèle. Et là, on s'est rendu compte que le président, à l'époque, Amani Toumani Touré, avait en fait, à défaut de pouvoir contrôler cette zone-là, décidé d'armer et d'appuyer un certain nombre de milices qui créaient en fait une zone tampon. En fait, le Nord-Mali était une zone tampon. Et tant que ces milices-là étaient payées, armées, alimentées, tout se passait bien.
Par qui ? Payées, armées ?
Par le président lui-même, en fait.
C'est-à-dire par l'État ?
Oui, par l'État.
D'accord.
C'est pour ça que...
Et vous ne parlez pas d'armée, vous parlez de milices. C'est tout de même bizarre.
Mais parce que justement, selon moi, la constante, c'est cette idée de ce qu'on appelle les guerres par procuration. C'est-à-dire que le défaut d'armée, il y a une crainte très forte du politique, des représentants politiques, de leurs armées.
Ben, ils n'ont pas tort, puisque c'est généralement le général ou le commandant de la garde présidentielle qui prend le pouvoir.
Oui, mais en même temps, c'est le jeu. C'est-à-dire que quand on regarde depuis les indépendances, il y a beaucoup de militaires, en effet, qui ont pris le pouvoir. Alors, par la force ou pas, d'ailleurs. On a aussi ce qu'on peut considérer comme on troque l'uniforme contre le costume cravate. Ça, c'est aussi une tendance générale. On l'a vu par ailleurs aussi au Bénin, avec Mathieu Kérékou, enfin, on a plein d'exemples. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les questions sécuritaires sont tellement importantes qu'avoir une armée faible, c'est quelque part se tirer une balle dans le pied, j'ai envie de dire, parce que c'est un élément essentiel. Et il me semble que c'est la démarche inverse qui devrait être considérée. C'est-à-dire que plus l'armée est forte, moins elle a de revendications et moins elle risque d'être tentée par des coups d'État. Le coup d'État aussi au Mali par le capitaine Sanogo, paru de nulle part, ça part déjà de ces revendications-là. C'est-à-dire que finalement, il y a un clivage fort entre ceux qui sont finalement les officiers généraux, qui sont très bien placés, qui ont un accès direct au pouvoir et à tous les privilèges, et puis les soldats du rang ou les soldats, les simples officiers qui, eux, n'ont rien. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait défaut, qui fait que le pouvoir politique a peur de son armée et qui, à défaut d'utiliser son armée en qui il n'a pas confiance, va en fait armer des milices. Ça a été exactement la même chose au Tchad et au Soudan. Et ça, c'est vraiment une constante. Et à l'époque de la guerre froide, ce qui s'est passé, la seule différence, c'est qu'à l'époque, c'était justement les États-Unis et l'Union soviétique qui étaient derrière. Mais on voit cette constante depuis toujours. C'est-à-dire qu'un État qui n'a pas la capacité d'avoir une armée suffisamment forte va essayer d'utiliser des milices qui, au bout d'un moment, par définition, lui échappe, alors que l'armée lui est subordonnée.
Amandine Nyankénon, pour en revenir au Mali, est-ce qu'il y a aujourd'hui plusieurs Mali ou est-ce que le Mali a reconstitué son unité ?
J'ai envie de dire, juridiquement, il n'y a qu'un seul Mali. On parlait de l'intangibilité des frontières tout à l'heure. Mais à côté de ça, Régis Debray, ce que j'ai... Il persiste, en fait, plusieurs Mali. Il persiste plusieurs Mali parce que, une fois de plus, chaque communauté est confrontée à des problématiques qui ont fait qu'elles se sont regroupées les unes envers les autres. Elles
essayent. Ou contre les autres.
Et contre les autres. Parce que là, on retombe vraiment dans la logique, j'ai envie de dire, presque schmittienne. Je pense que ça vous parlera, de l'ami, ami, ennemi.
Oui, bien sûr.
Jusqu'à présent, elles pouvaient être de simples rivales, mais aujourd'hui, on voit vraiment que l'autre est vraiment perçu comme un ennemi.
Alors, il y a combien de Mali aujourd'hui ? Il y a le Mali Touareg au nord.
Oui, mais même au sein de la communauté Touareg. Le problème, c'est que même au niveau de la communauté Touareg, vous avez aussi plusieurs communautés.
Ouais.
Donc, il y a plusieurs, il y a vraiment plusieurs Mali. On peut le décliner à l'infini. Et je me souviens de discussions que j'avais eues avec des experts sur la Libye, qui étaient aussi intéressants, et qui me disaient qu'au moment de la chute de Kadhafi, les divisions allaient même jusqu'au sein de la famille. C'est-à-dire qu'au sein d'une même famille, vous aviez des personnes qui n'étaient pas d'accord sur fallait-il ou pas soutenir Kadhafi. Et au Mali, on n'en est pas là parce que voilà, on n'a pas cette même logique sur la répartition du pouvoir. Oui. Mais les divisions, ça se scinde indéfiniment en fait.
Amandine Nyankénon, il existe l'OUA, enfin je crois que c'est l'Union africaine aujourd'hui. De mon temps, si j'ose dire, je me souviens de Nkrumah, l'organisation de l'Union africaine. Je me souviens du panafricanisme, enfin de tous ces grands mouvements des années 60 au moment de la décolonisation. Mais tout de même, à problème africain, solution africaine. Qu'est-ce que c'est que l'OUA ou l'Union africaine d'aujourd'hui ? ça devrait être un cadre de solution. Est-ce que c'est possible? Et pourquoi ça ne marche pas? Autrement dit, pourquoi les Africains n'assument pas, je dirais, leur conflit à compte propre, si j'ose dire? Ou est-ce qu'on craint plutôt une intervention d'un pays voisin plus qu'une intervention d'un pays du Nord? Expliquez-moi un peu ce que fait l'OUA pour résoudre les problèmes de l'Unité africaine, puisque c'est ainsi qu'elle s'appelle, cette organisation.
Bien sûr. Alors l'Union africaine qui a été créée en fait dans la succession de l'organisation de l'Unité africaine en 2002, s'est mise en avant justement comme un acteur clé pour résoudre les conflits, avec finalement comme modèle l'Union européenne. Et je pense que finalement c'est ça qui aujourd'hui fait que c'est le principal fardeau de cette organisation. C'est-à-dire qu'à l'origine, le projet de l'OUA était un projet extrêmement ambitieux, extrêmement intéressant, qui était basé sur la logique, déjà justement, comme vous l'avez dit, d'appropriation. C'est-à-dire finalement, on veut être les principaux acteurs, les premiers acteurs à traiter nos problèmes de sécurité, nos problèmes politiques. Et ça, c'était porté par des dirigeants justement très forts. Nkrumah, tous ces dirigeants qui ont été repris ensuite par Thabo Mbeki, vraiment des personnalités fortes. Et tout ça s'est dilué dans le temps. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, progressivement, ce qui est apparu, c'est que l'Union européenne était un bailleur très intéressant et que s'en mettant dans une position un peu de bon élève, j'ai envie de dire, les fonds venaient beaucoup plus facilement. Et ce qui était en jeu aussi du côté de l'Union européenne, c'était finalement d'exporter un modèle, un peu comme on a en relations internationales cette expression de Joseph Nye, de soft power, c'est-à-dire finalement de puissance douce. N'arrivant pas à exporter une puissance militaire, et ça avait été évoqué, il me semble, par le général Desportes dans l'une de vos émissions, finalement, ce que l'Union européenne a voulu exporter en Afrique, c'est son modèle d'Union européenne. Et l'Union africaine a pris exactement ce modèle-là, elle l'a copié, elle l'a collé, et elle a perdu, en fait, tout ce qui faisait l'originalité de son modèle de départ, c'est-à-dire cette idée de « on a quelque chose à proposer, on veut être indépendant, on veut être autonome », et tout ça s'est dilué.
Oui, mais l'Union européenne, l'une de ses caractéristiques, Amandine Yanguaino, c'est qu'elle n'a pas d'armée, elle n'a pas de force de coercition. Alors, exporter ce modèle dans un pays qui aurait tout de même besoin d'une force militaire ou en tout cas d'interposition proprement africaine. Disons, le modèle européen ne pouvait que désarmer l'Union africaine, non ? Alors qu'on avait besoin tout de même d'une capacité de gendarmerie, disons.
Je pense que c'est l'erreur qu'on commet, parce qu'on a vu cette tendance, la militarisation de la résolution des conflits. Aujourd'hui, on considère que comme on est dans des formes de sécurité dures, militaires, la seule solution, c'est le militaire. Et en fait, quand je dis que l'Union africaine a perdu finalement un modèle fort, c'est le modèle de la médiation, le modèle de la négociation, et de réinventer ou d'inventer son modèle de prévention des conflits. Aujourd'hui, on est dans une situation où on laisse les conflits dégénérer. Et une fois que le conflit est arrivé trop loin, qu'on voit qu'il est plus possible de faire discuter les belligérants, on dit là, il nous faut une force d'intervention militaire. Le problème, c'est que l'Afrique et les pays africains, mis à part quelques puissances qu'on connaît, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Nigeria, n'ont absolument pas les moyens d'intervenir militairement.
Oui, c'est certain, ni les moyens financiers, ni les moyens techniques, ni les moyens militaires. Mais je vais vous poser, Amandine Nyangueno, une question terrible. Il n'y a pas de peuple européen. On a pensé que le système européen pouvait engendrer un peuple européen. Ce qui aurait donné une certaine consistance à l'Union européenne, autre que bureaucratique ou économique. Est-ce qu'il y a un peuple africain? Est-ce qu'une médiation africaine est vécue ou non comme une ingérence s'il n'y a pas de sentiment d'appartenance commune? Est-ce qu'il y a un peuple africain comme on aurait souhaité qu'il y eût un peuple européen, qui n'est pas né, en fait? Parce que pour avoir une organisation, il faut avoir un sentiment d'appartenance tout de même. Une certaine capacité de... Une capacité de médiation suppose une certaine familiarité. Ou en tout cas une position possiblement neutre ou équidistante au nom d'un héritage commun. Est-ce que ce sentiment-là est possible ou est-ce qu'il est prématuré est-ce qu'il a existé peut-être dans les guerres anticoloniales? Peut-être que L'organisation de l'Union africaine est née dans le grand élan de libération de Bandung, d'Alger, etc. Et puis après, le morcellement.
Oui. Alors, pour vous répondre, Régis Debré, je pense qu'il faut en fait prendre en considération la déconnexion qu'il existe et qui n'est pas propre à l'Afrique entre les élites et les populations. Ce projet d'Union africaine et ce projet de peuple africain, il est porté par des élites. Et on a vu régulièrement revenir cette proposition d'un passeport africain qui permettrait à tous les ressortissants de tous les pays africains de circuler. Oui. Ce qui paraît d'autant plus étonnant que aujourd'hui on est dans une situation où on veut au contraire renforcer les frontières et les contrôles parce que on est dans une logique de lutte contre le terrorisme. Oui. Alors j'ai envie de dire, on est presque dans un décalage entre la réalité et le projet en lui-même. Le problème, c'est qu'on a donc ce décalage entre un projet porté par des élites et une population qui, elle, finalement, c'est un peu comme des poupées russes, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de l'ethnie. Les allégeances, elles sont multiples, c'est-à-dire qu'on peut se sentir à la fois membre d'une ethnie, membre d'un pays, membre de la communauté africaine.
Oui. Ce troisième étage existe ?
Ce troisième étage, pour vous répondre, n'existe pas. Il n'existe pas parce qu'en fait, vous avez alors une échelle cette fois-ci non plus continentale mais régionale, de nombreux pays qui en fait sont partie prenante des conflits dans leurs pays voisins. Donc, de fait, comment arriver à constituer, c'est particulièrement le cas dans la Corne de l'Afrique, comment voulez-vous arriver à constituer une identité régionale dans un pays où tous les pays voisins ont été en guerre les uns contre les autres par le soutien justement à des milices, à des groupes rebelles, Éthiopie, Érythrée, Soudan, Somalie. Donc, vous ne pouvez pas créer un socle à partir du moment où localement, les populations sont de toute façon toujours pareilles selon cette logique de diviser pour mieux régner. Donc, il y a un projet qui est porté sur le papier, mais dans la réalité, on en est très loin. Et puis, je le rappelle, l'Afrique est un continent. Donc, l'ambition, elle est là, mais les États ont leurs intérêts, les populations ont leurs préoccupations quotidiennes, et c'est un beau projet, mais ça reste un projet de papier.
En vous écoutant, Amandine Nyangénon, on a le sentiment que l'Afrique est un peu, fallait dire, le berceau de l'humanité. C'est un cliché, mais pas tellement, parce qu'on y assiste un peu à ce qu'a pu connaître l'Europe dans ses débuts, c'est-à-dire cette interpénétration entre le guerrier et le politique. C'est-à-dire la façon dont, au fond, la guerre est, comme disait le grec, la mère de toute chose. Autrement dit, c'est dans ce creuset-là que se forment et se recomposent les États, ce qui fait de vos études, ce qui donne à vos études un aspect anthropologique, je considère, qui peut intéresser l'anthropologie politique. Le philosophe en tant que tel, en tout cas, le philosophe de l'histoire en tant que tel, et pas seulement l'ethnologue. Peut-être que j'exagère un peu, non ?
Non. Après, j'ai un diplôme de sciences politiques, mais j'essaye de m'inspirer de tout ce qui s'est fait ailleurs, en anthropologie, en philosophie politique. Je trouve que, il y a énormément de choses qui ont été faites, et sur ces questions-là, qu'on qualifie souvent de complexes, il faut aller chercher un peu partout. Il y a énormément de choses qui peuvent être puisées dans ces différentes disciplines. Et il est vrai que du coup, cette notion de guerre et politique, elle nécessite des éclairages qui sont à la limite de l'interdisciplinarité.
Qui sont à la limite de la philosophie.
Oui.
Et qui sont donc à la limite de la réflexion sur le fondamental. Sur, disons, la condition humaine. Allez, soyons prétentieux. Merci Amandine Nyangénon de votre contribution à l'anthropologie historique.
Merci Régis Debré.
Les discussions du soir, Amandine Nyangénon, Benjamin Vignal, Laurence Genepa. Anne-Pascale Desvignes et Régis Debray.